en Léon, le Léon noir. Que l'on vienne du Trégor ou de la Cornouaille, une impression singulière de grandeur et de tristesse saisit l'âme dès que l'on pénètre en Léon. On a tout de suite le sentiment d'une terre à part, d'aspect étrangement austère, aux horizons plus larges, mais plus dénudés. Loti, qui l'a parcouru naguère en compagnie de son frère Yves, a tracé d'elle ce croquis. Un grand pays plat, une lande aride nue comme un désert. C'est vraiment une contrée sans grâce et sans charme. Les rivages même, bordés de dunes ou prolongés en de vastes étendues sablonneuses, sont monotones, ennuyeuses et laids. Aussi les baigneurs s'en écartent-ils. La mer n'y sourit en aucune saison. Rares et peu profondes sont les vallées, sombres et silencieuses les fontaines, où jamais les yeux divins de la Viviane celtique ne se sont mirés. Les bois manquent, à peine quelques bouquets d'arbres rebroussés par les vents de l'ouest. Des cultures maraîchères, en revanche, et des prairies artificielles à perte de vue. Rien ne rompt l'uniformité de ce plateau immense, si ce n'est des silhouettes de clochers pointant vers le ciel de toutes parts. Ces fines aiguilles de pierre, merveilleusement ajourées par des artisans primitifs, la terre léonaise en est hérissée d'un bout à l'autre. Elle est proprement le pays des églises. Elle s'en enorgueillit, non sans quelque raison, d'abord parce qu'elle n'a pas d'autre parure, et puis parce qu'il en est, parmi ces églises, qui sont de purs poèmes, des miracles de hardiesse et d'élégance et de beauté. On connaît le Crèzecœur, une chanson de conscrit finistérien, devenue comme l'air national des Bas-Bretons, en a célébré la sveltesse et la hauteur jusqu'aux plus extrêmes confins du monde. Il étonne si fort les Léonards eux-mêmes qu'à les entendre, il n'a pu être construit que par le diable, le plus pervers, mais aussi le plus ingénieux des anges, comme on sait. Le Crèzecœur n'est point une exception. Allez à Bervin, à Lambadère, à Guimillot, à Saint-Égonnec, au Folgoat, et j'en passe, vous y verrez s'épanouir d'exquises floraisons architecturales. Quant aux sanctuaires locaux, ils sont innombrables. Pas de hameau qui n'est le sien, et ce ne sont pas les moins ornés. Les landes, les grèves même en sont peuplées, et l'on en rencontre qu'il faut déblayer chaque printemps, à demi enfouis qu'ils sont au marais d'équinoxe dans les sables. Pour qui voyage en ce pays, c'est là le premier trait qui frappe, les lieux de prière multipliés presque à l'infini. Le second, c'est la fréquence des châteaux. D'aucuns, comme celui de Kérouzéré, écrasent les labours avoisinants de leur masse féodale restée intacte. D'autres, Kerjan par exemple, évoquent tous les enchantements de la Renaissance. La plupart cependant sont modernes. Mais il n'est pas jusqu'aux plus récentes de ces maisons seigneuriales qui ne demeurent tout imprégnées de l'atmosphère d'une autre époque et comme confites en des dévotions surannées. Les parcs qui les entourent forment les seules oasis de cette région sans arbres. Tristes oasis. Leur verdure vénérable assombrisse l'horizon plus encore qu'elle ne l'égaye et font planer sur toute la contrée je ne sais quelle ombre léthargique. Pays d'églises et de châteaux, pays de nobles et de prêtres, dit à propos du Léon un vieil adage. Le mot n'a pas cessé d'être juste. Tel est bien le double caractère de cette terre, ce qui lui imprime sa marque propre, sa dure et froide originalité. La race y est belle et grande, avec quelque chose de majestueux. La figure des femmes, sous la coiffe étroite aux rubans relevés en forme d'anse, fait penser au type sévère des matrones romaines. Les hommes, tout de noir vêtus, portent le feutre large à boucles d'argent. Le gilet taillé en juste au corps, la veste à basque, de coupe ancienne, et qui rappelle l'habit de cour. Un ample turban de laine grise fait deux et trois fois le tour de leurs reins. Vu dans l'attitude qui leur est familière, le torse cambré, les mains passées dans la ceinture, les léonards ont grand air. Il semble que l'on retrouve en eux un peu de la dignité grave de leurs homonymes d'Espagne, je ne sais quelle solennité d'Hidalgo. Ces paysans ont conservé des dehors et des manières de gentilshommes, que si vous visitez leurs fermes, vous croirez entrer dans des manoirs. Bâties la plupart sur un modèle unique, elles sont toutes flanquées d'un apotitaol, sorte de donjon carré où l'on a coutume de dresser la table de famille. Et il n'est pas jusqu'à la langue dans laquelle on vous souhaite la bienvenue qui naît sa noblesse. De tous les dialectes armoricains, c'est le dialecte léonais qui a le moins évolué. Presque pas de contraction. Les formes verbales ont gardé toute leur ampleur primitive et se déroulent avec une harmonieuse lenteur, en périodes sonores et grandiloquentes. Les léonards ont conscience de ce que leur idiome a de particulier. Ils le définissent eux-mêmes un breton large, Brezonec les dents. Ailleurs, on parle, me disait l'un d'eux, nous autres, nous prêchons. Il ne faudrait, du reste, pas juger de cette race d'après son extérieur un peu compassé. L'esprit chez elle est alerte, insinuant, souple, d'aucuns vont jusqu'à dire côteleux. Ce sont les Normands de la Bretagne, affirme-t-on couramment. De fait, ils sont entendus aux affaires. Très différents, ceux-là, de la grande majorité des Celtes, dont on connaît l'incurie native, l'inaptitude aux besognes d'argent. Eux, ils ont souci de gagner, d'amasser, de faire fortune. Tout léonard, si l'on en croit le proverbe, porte en lui une âme de marchand. Fermiers, ils se livrent à l'élevage. Maquignons, ils promènent de foire en foire leurs figures glabres, leurs épaules athlétiques et leurs paroles dorées. On sait combien le breton répugne à la transplantation. Les racines adventives lui font défaut. Il ne se résigne à l'exil que contraint par les pires nécessités. Parfois, il en meurt. Le léonard s'expatrie volontiers s'il y trouve profit et, loin de dépérir, il prospère. Qu'on lise l'étude si documentée que M. Lemoine a consacrée dans la science sociale à l'émigration bretonne. Le Roscovite y est en belle place, et le Roscovite est assurément l'incarnation la plus complète, la plus vivante du mercantilisme léonais. Il pullule à Paris, à l'entour des Halles, mais on le rencontre aussi bien au Havre, à Nantes, à Angers. Pour vendre à bon prix ses oignons, ses artichauts, ses choux-fleurs, ses primeurs de toute espèce, où n'irait-il pas ? Londres, Cardiff, Southampton, le voit débarquer à époque fixe. Au pays de Galles, on est tellement accoutumé à lui que, pour beaucoup d'habitants, breton et roscovite, c'est tout un. Et cette identification n'est pas toujours, paraît-il, pour rendre sympathique aux Celtes d'outre-Manche leurs congénères de ce côté du Détroit. Le léonard est passé maître dans l'art éminemment commercial de mystifier l'acheteur. Il y apporte sa gravité de pince sans rire et les ressources de l'esprit le plus inventif. Cette forme d'imagination est d'ailleurs la seule dont il fasse cas. Les spéculations désintéressées le laissent indifférent. La vie contemplative, si développée chez ses compatriotes du Trégor, est, chez lui, à peu près nulle. Rêver lui semble une occupation de paresseux. Il n'a de goût que pour l'action positive et d'un résultat prochain. Le monde de la fiction et des songes, où se réfugie et se complaît peut-être trop volontiers l'âme bretonne, lui est un domaine fermé, une sorte de jardin défendu vers lequel aucune curiosité ne l'attire. Alors que, partout ailleurs, en Armorique, le mythe est sans cesse en travail et se perpétue à l'état de création vivante, c'est à peine si, dans la mémoire des gens du Léon, surnagent quelques débris informes des anciens récits. Le témoignage de M. Luzel est décisif à cet égard. « Vainement, dit-il en substance, vainement j'ai battu les campagnes léonaises, depuis l'embouchure de la rivière de Morlaix jusqu'à la pointe de Saint-Mathieu. » Malgré de longues et patientes recherches, je n'ai pu découvrir que des fragments de contes. Encore sont-ils en nombre fort restreint. Et il ajoute, les poésies, guerres ou saunes, n'y sont pas moins rares. Le léonard ne chante pas. Que de fois ne l'ai-je point éprouvé par moi-même. Un jour, cependant, passant sur la route de Cléder à Ploueska, j'entendis derrière un talus une petite gardeuse de vaches qui chantait. L'air était celui d'une ballade en renom, tout ensemble véhément et triste. Je m'approchai de la fillette. Elle me tendit un recueil de cantiques pieux, ses heures, comme elle disait. De façon générale, le Léonard ne connaît d'autre littérature que celle du livre de messe. D'aucuns peut-être l'en féliciteront. Les bardes nomades eux-mêmes hésitent à s'aventurer en ce pays, qui les dédaigne ou qui les raille. Ils y sont traités de fainéants quand on ne les fuit pas comme des excommuniés. Toutes les autres régions de la péninsule peuvent exciper de quelques noms ayant plus ou moins marqué dans l'histoire des lettres. Le Léon n'en compte pas un. Le seul homme qui fasse grande figure dans ses annales est Michel le Noblette, un apôtre. Il vécut au XVIIe siècle et fut une espèce de Jansénius breton. Il s'attacha surtout à la réformation des mœurs. Il parcourut les fermes, les villages, les îles, déracinant les restes des antiques superstitions, prêchant le retour à la pure doctrine, rappelant le clergé lui-même à l'austère tradition du catholicisme primitif. Suspect aux évêques, contrecarré dans toutes ses démarches, il n'en continua pas moins d'évangéliser. On parle aujourd'hui de sa canonisation. Son action sur le peuple fut profonde et suscita un puissant réveil de l'idée religieuse dont les effets durent encore. Nul n'a plus contribué à faire du Léon ce qu'il est, une sorte de fief d'église, une citadelle inexpugnable de la foi. Car c'est ainsi. Cette race léonarde si entreprenante, d'intelligence si déliée, affranchie de tant de préjugés en toute autre matière, se montre, dans l'ordre spéculatif, d'une docilité presque absolue. Uniquement vouée aux affaires, il semble qu'elle ait chargé ses prêtres, en tout le reste, de penser pour elle. C'est le principe de la division du travail appliqué de façon peu commune. Un brave homme de là-bas m'exposait ainsi sa conception. J'élève mes bêtes et je les vends au meilleur prix que je peux. Ce n'est pas toujours chose aisée. Pourquoi irais-je m'embarrasser d'autres soins? En dehors de mon métier, le recteur est là pour me dire ce qui est bien, ce qu'il faut faire. J'écoute, j'obéis et je suis tranquille, je suis dans l'ordre. Les jours d'élection sénatoriale dans le Finistère, la délégation du Léon présente un singulier spectacle. Beaucoup de ses délégués sont des ecclésiastiques et l'on dirait un clan de paysans conduit en pèlerinage par ses prêtres. Longtemps, les nobles ont exercé sur ces campagnes une influence presque égale à celle du clergé. Mais elle est aujourd'hui fort en baisse. Avec le spectre de plus en plus effacé du roi, s'est évanoui le prestige du gentilhomme. Là, au trou, le seigneur ne pèse plus guère que ce que pèse sa fortune. Son crédit ne dépasse pas l'étendue de ses terres. Seul, sa clientèle de fermiers ou de manœuvres se sont tenus d'accepter de lui le mot d'ordre. On le salue encore très bas, mais on ne le considère plus comme un être exceptionnel. Le château a fini d'en imposer, surtout depuis que le clergé, sur les indications de Rome, a séparé sa cause de celle des partis vaincus. Le presbytère, en revanche, je dis le presbytère et non l'Église, demeure dans chaque paroisse une sorte de centre moral d'où toute lumière émane et qui, par d'invisibles courants, agit sur toutes les consciences. Il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas étudié de près ce peuple de se représenter son état d'esprit et l'idée, aussi peu moderne que possible, qu'il se fait du prêtre, de sa mission évangélique, de son rôle social. Cela ne ressemble à rien de ce temps, et vous reporte à plusieurs siècles en arrière, en plein Moyen-Âge. Le prêtre, aux yeux du Léonard, n'est pas seulement un personnage revêtu d'un caractère sacré. Des facultés mystérieuses lui sont dévolues. C'est une espèce de thaumaturge et presque de sorcier. La vénération que l'on professe pour lui ne va pas sans quelque terreur. Le rêve de toute famille Léonarde est d'en compter au moins un parmi ses membres. On couve dès le berceau cet enfant prédestiné. On ne recule devant aucun sacrifice pour lui faire suivre les cours au collège de Saint-Paul et de Lesnevin, les deux villes saintes de la contrée. Et, lorsqu'il reparaît, frais et moulu du séminaire, tout flambant neuf dans sa soutane, on n'ose plus le désigner par son nom. Sa mère ou ses sœurs le servent humblement dans une pièce à part, et le père, pour s'asseoir à sa table, attend qu'il veuille bien l'en prier. Il serait puéril de s'étonner, après cela, de l'extraordinaire empire que possède le clergé sur les âmes dans cette petite théocratie bretonne qui s'appelle le Léon. Le prêtre est ici le fils élu de la race. Il en est la conscience pensante et, si l'on peut dire, le cerveau. Joignez qu'il a derrière lui, autour de lui, sa nombreuse parenté, et l'on sait qu'elle est, en Bretagne, la persistance indomptable du lien familial. Il ne dépend que de lui d'user de son autorité et d'en mésuser s'il lui plaît. Il ne s'en fait pas toujours faute. Le sentiment de sa force lui inspire un certain orgueil de caste. On l'a vu dans plus d'une circonstance. Braver l'évêque, braver même le pape. Au début du siècle, il refusa longtemps de se plier aux lois concordataires et de reconnaître la suprématie de ses nouveaux chefs. Un recteur, du nom d'Éliès, alla jusqu'à prêcher le schisme. Une église léonarde menaçait de se constituer. Déjà, des offices clandestins se célébraient à huis clos et, pour préserver les morts de toute souillure, on les enterrait nuitamment, hors des bourgs, dans quelques cimetières désaffectés. Les petites chapelles tréviales, les humbles sanctuaires à demi ruinés, dérobés dans les replis des dunes ou perdus dans l'immensité des landes, servirent de lieux de prière et de conciliabule aux fidèles de la nouvelle secte. Des émissaires allaient, de ferme en ferme, convier les gens au rendez-vous et leur communiquer le mot de passe. J'ai même ouï dire à une Léonarde quasi centenaire qu'elle avait vu tenir des réunions de ce genre dans la cour du manoir paternel. On dressait la nappe de l'autel sur un énorme bahut à blé. L'heure du prône venue, le prêtre montait dans un tombereau et, de cette chaire improvisée, exhortait l'auditoire à souffrir toutes les persécutions plutôt que de pactiser avec l'hérésie. La résistance au culte commençait à tourner à la révolte ouverte. Les femmes surtout se montraient exaltées. On craignit des désordres. Les pouvoirs publics durent intervenir. Le mouvement avorta. Et sans doute, les temps ont changé depuis lors. Mais il semble bien que, dans ce sombre pays de Léon, quelque chose vit encore de l'âme farouche du vieil Éliès. Moisson marine. Une ordonnance de 1681 s'exprime comme il suit. Tous les ans, le premier dimanche de janvier, les habitants des paroisses du littoral doivent se réunir pour fixer l'époque et la durée de la coupe des varechs croissant à l'endroit de leur territoire. Les syndics, marguilliers ou trésoriers sont chargés de faire les convocations, d'afficher et de publier les décisions à peine d'amende. Sous peine d'amende aussi, il est défendu de couper et d'enlever le goémon la nuit. Nul ne peut en cueillir que sur les côtes de sa paroisse, ni le vendre aux forains, ni le transporter sur d'autres territoires. À peine de la dite amende et de la confiscation des chevaux et des harnais. Les seigneurs de fiefs voisins de la mer ne peuvent profiter du goémon que dans les limites assignées aux autres habitants, ni percevoir aucun droit se touchant à peine de concussion. La législation en cette matière n'a guère changé depuis le XVIIe siècle. C'est encore la commune qui, de nos jours, est appelée à fixer elle-même, dès le début de l'année, l'époque de ce que les Bretons nomment, d'un terme si expressif, l'août marin, la moisson de la mer. Donc, un des premiers dimanches de janvier, le plus souvent le dimanche de l'Épiphanie, le héros municipal, secrétaire de mairie ou garde champêtre, gravit, à l'issue de la grand-messe, les marches de la croix érigée au centre du cimetière et dont le socle, parfois entouré à hauteur d'appui d'un mur en forme de chaire, remplit d'ordinaire, dans nos campagnes, l'office de tribune aux harangues. Paysans et pêcheurs, gens des terres et gens des côtes, s'attroupent au pied de l'orateur parmi les tombes, et lorsqu'il a donné lecture de la vie, en concluant, selon l'usage, par l'invitation sacramentelle, « Ainsi donc préparez vos bras et vos faucilles », une immense acclamation salue ces paroles. La période annuelle de la récolte du goémon vif, en dépit des rudes fatigues qu'elle entraîne et des dangers même qu'elle comporte, est, pour ces populations du littoral, une sorte de divertissement héroïque. Elles en attendent impatiemment l'ouverture. La date varie, suivant les convenances locales, mais pas en deçà de certaines limites traditionnelles. Janvier, février sont les mois où il est de coutume constante qu'elles soient comprises. Remarquez que ce sont aussi les mois où la vie rurale, comme la vie maritime, est la plus stagnante. C'est la saison des pluies et la saison des vents. Il n'y a rien à faire au champ, rien à faire au large. Les barques sont tirées sur le rivage et les outils de labour appendus au piquet des granges. Dans les métairies de l'intérieur et dans les chaumines basses des bords de la côte, l'on demeure mélancoliquement confiné chez soi, sans autre ressource, pour tuer le temps, les pêcheurs, que de raccommoder des filets, les fermiers, que de tailler du lin, roui de l'automne précédent, ou de corder du chanvre. Il y a bien les vieilles qui comptent des histoires, mais tant de fois entendues. On en arrive à s'ankyloser les jambes sur les escabelles du foyer, à s'abîmer devant le feu de motte, en des rêvasseries sans objet et sans fin. Et cela dure, ou peu s'en faut, depuis la commémoration des défunts, à travers l'humide, la brumeuse, la pénétrante tristesse des mois noirs. Ces hommes de plein air, tourmentés d'un impérieux besoin d'activité physique, supportent malaisément cette existence claustrée. Ils ne conçoivent la maison que comme un gîte. C'est l'endroit où l'on couche, non point l'atmosphère où l'on vit. De là leur dédain de tout confortable domestique. Un toit qui préserve de l'intempérie, un trou par lequel on puisse entrer, une lucarne qui, le logis clos, permette tout juste d'y voir clair, que souhaiter de plus? Leurs femmes, leurs enfants jugent d'eux-mêmes. À la moindre embellie, ils sont sur le seuil. Eux, ils n'aspirent qu'à être hors. Aussi quelle aubaine lorsque l'août marin, l'août hibernal est enfin fixé. On va, pendant un jour ou deux, trois peut-être, on va pouvoir secouer cette torpeur où s'engourdissaient le corps et l'âme. La nouvelle, colportée de hameau en hameau, a fait le tour de la paroisse, et tout de suite on s'apprête, on s'organise. C'est un branle-bas universel. Quelques notables, désignés par le conseil municipal et décorés, pour la circonstance, du titre de garde goémonier, reçoivent mission d'attribuer à chaque famille la portion de roche qui lui est concédée. La grève, en effet, a été partagée au préalable en autant de lots que la commune compte de feu. Il y a même des cantons où, pour éviter les contestations qui pourraient se produire, ces lots sont tirés au sort. Les gardes goémoniers ont, en outre, la charge, de concert avec la douane du lieu, de surveiller la coupe, d'empêcher les infractions au règlement, de prévenir ou d'arrêter les rixes. Ce n'est pas une sinécure, étant donné l'espèce d'âpreté, tout ensemble jovial et farouche, avec laquelle hommes et femmes se ruent à cette étrange moisson. Levé sur les 3 heures du matin, pour aviser aux derniers préparatifs, la plupart des travailleurs sont excités dès l'aube. Sous prétexte de leur mettre du cœur au ventre, de les armer contre la bise, contre le froid de l'embrun, et aussi parce que c'est une grande journée, journée de labeur exceptionnelle, les chefs de ménage n'ont pas manqué à leur faire boire une large rasade d'eau-de-vie qui achève d'exalter les têtes. Et comme ces libations se renouvelleront plus d'une fois au cours de la besogne, quoi d'étonnant si, avant le soir, main coup de faucille s'égare ailleurs que dans le varech. Il plane sur ce rite semi-agricole, semi-marin, un peu de la fougue et de la démence des bacchanales antiques. C'est surtout en Léon que le spectacle revêt son caractère le plus saisissant. J'en ai retenu, quant à moi, une impression profonde. Le décor y est merveilleusement approprié à la scène. Les côtes, tantôt dévalent en maigres pentes sablonneuses que prolongent, à mer basse, d'immenses étendues de grèves parsemées de champs d'écueils. Tantôt se redressent, d'un brusque sursaut, en murailles abruptes, d'une architecture imposante et sauvage, percées çà et là d'étroits estuaires ou hérissées de gigantesques promontoires. C'est, je pense, du haut d'un de ces grands caps venteux que la femme de Tristan de Léonois fit guetter le retour du vaisseau qui portait Iseux. Pour avoir été le théâtre de cette poignante fin d'amour, le paysage semble en avoir conservé une sorte de désolation tragique. La nature n'y sait point sourire, et même dans les plus beaux jours, garde quelque chose de désenchanté. L'hiver y est affreux. Les houles de Manche et d'Atlantique, dont c'est ici le point de rencontre, luttent de vacarme et de fureur. On imaginerait difficilement des parages plus inhospitaliers. C'est comme qui dirait une torride bretonne. La race est à l'avenant, rude et forte, et d'une stature quasi plus qu'humaine, avec de vieux instincts de férocité primitive dont elle passe, quoique très amendée, pour entretenir jalousement les restes. Le sang de ses ancêtres naufrageurs tourmente encore ses veines, car la sombre lignée des pilleurs d'épaves, c'est principalement en cette région qu'elle a fleuri, et l'on s'en aperçoit bien à examiner d'un peu près le type et les façons de leurs descendants. Mais j'ai promis au vénérable Jouan à Bâmont de n'insister pas sur ce pénible sujet. La veille du jour où devait avoir lieu la coupe du goémon dans sa paroisse, il m'était obligeamment venu prendre en carriole à l'Anilis et, si je dormis mal cette nuit-là, dans la chambre qu'il m'avait offerte, ce ne fut point la faute du lit qui était excellent, mais la faute de la tempête qui cornait au dehors et qui, tour à tour gémissante et hurlante, mariait, dans un effroyable orchestre, de longues plaintes félines à des meuglements de bœufs affolés. Lorsque, au petit matin, Jouan à Bâmont heurta mes volets, j'étais déjà sur pied. « Enveloppez-vous chaudement, me recommanda-t-il. » On ne lui voyait à lui que les yeux et le nez. Le reste du visage disparaissait dans un extraordinaire casque de molleton aux teintes fanées d'un bleu verdi qui lui enserrait la tête, garantissait la nuque et la gorge et recouvrait même les épaules. C'est une coiffure qu'on ne rencontre, je crois bien, nulle part ailleurs. Elle lui donnait un je ne sais quoi de mystérieux et de barbare. On eût dit la figure de quelque antique chef de guerre ressuscité du fond des âges. Nous sortîmes. La rafale continuait de se déchaîner par trombes et, dans le vague blêmissement du ciel encore brouillé de nuit, galopait avec des bonds effrayants d'immenses chevauchées de nuages en fuite. Le noir des campagnes autour de nous s'animait confusément. Aux menues vitres des fermes, des lueurs brillaient de tous côtés. On percevait des bruits de voix et des ébrouements de bêtes. Des ombres s'agitaient, criaient. Les routes qui mènent vers les plages s'emplissaient peu à peu d'une rumeur croissante, faite du rapide piétinement des sabots et du roulement solennel des chars. Cela prenait les proportions d'une levée en masse. Sans cesse des groupes nous dépassaient, hommes et femmes pêle-mêle, brandissant des engins variés dont on eût su dire, dans le trouble crépuscule matinal, si c'était des instruments de travail ou des armes de combat. D'aucuns portaient, balancés au bout d'une perche, d'énormes fanaux de fer blanc, les mêmes sans doute qu'une ruse férocement inventive attachait naguère aux cornes des vaches pour leurrer les navires en perdition. Ils allaient très vite et tête baissée, fonçant dans le grand vent sauvage qui soufflait de la mer. Et, après une demi-heure de marche par des chemins rocailleux, ravinés comme des lits de torrents, brusquement, derrière un tournant de colline, la mer se montra. La mer, c'est-à-dire une vaste étendue informe, un chaos sinistre et convulsé, où des traînées de baves blanches striaient des ondulations de dos verdâtre. Très loin, presque aux confins du ciel, un feu pâlissait. C'était le phare de la Vierge, semblable en effet dans l'indécision de l'heure, au fantôme long voilé de quelque déité des eaux, le front surmonté d'une étoile. Le jour, cependant, achevait de dissiper ces vaines apparences. Mais combien plus émouvante peut être la réalité? Les grèves, d'où le flot se retirait en se cabrant, étaient à perte de vue noires de monde. Et de toutes les hauteurs voisines, par toutes les issues, de nouveaux cortèges débouchaient sans discontinuer. Une fièvre singulière, une espèce de délire sacré exaltait l'âme de cette foule, gagnait jusqu'aux attelages eux-mêmes qui, les naseaux dilatés, hennissaient à la mer. Dès que les premières crêtes goémoneuses commencèrent de surgir, ce fut comme un élan irrésistible, toute barrière rompue. Jouan à Bamont, en sa qualité de notable, tenta bien de faire quelques remontrances aux gens de son quartier, mais déjà ils étaient dans l'eau jusqu'à mi-corps. Les femmes, au milieu de l'effervescence générale, donnaient l'exemple de la témérité. Les jambes nues, les cheveux noués dans un mouchoir, leurs jupes de droguet ficelées autour de leurs hanches, elles se précipitaient droit devant elles, provoquant les hommes de la voix et du geste, opposant leurs poitrines aux vagues et les labourant de coups de faucille, comme pour accélérer leur recul. Les charrettes, bondées de moissonneurs, de moissonneuses, avaient l'air, vu du rivage, de flotter ainsi que des barques remorquées à la nage par des chevaux marins. L'espace était plein de rires, d'appels, de cris, que dominait par intervalles une phrase hurlée en chœur comme une formule d'incantation. « D'Arbezin, d'Arbezin glace, au goémon vert !» La mer, maintenant, avait fui. Elle n'était plus qu'un large ourlet d'un bleu sombre, lamé de fines volutes d'argent à la lisière de l'horizon. Les plages étalaient à découvert leurs sables pailletés, leurs flaques, les mille veines de leurs ruisselets salés. Et enfin, et surtout, leurs jonchées de roches, leurs guérets de pierres brunes couronnées d'une toison de varech. Pas un de ces îlots qui ne fût envahi. Sitôt que la mobile draperie des nuages laissait, en se déchirant, filtrer les rayons du blanc soleil d'hiver, les goémons s'allumaient d'un bel éclat doré de moissons terriennes. On voyait, de sillons en sillons, aller, venir, les dos courbés des faucheurs. On suivait le jeu rythmé des faucilles. On entendait leurs grincements si d'aventure elles portaient à faux contre le granit. Parfois, une courte relâche, une tranche de pain dévorée en hâte, puis, dans chaque équipe, la tournée de la bouteille, une lampée d'alcool bue au goulot. Durant ces haltes, les ramasseurs passaient, soulevaient les javelles aux pointes de leurs tridents et les entassaient dans les charrettes. Soudain, sur les midis, des sonneries de cloches lointaines retentirent. C'était le carillon des paroisses annonçant l'heure de la marée montante et signifiant aux goémoneurs, sinon la fin de la coupe, du moins la suspension du travail. Alors, à travers les sables et les cailloutis de la grève, le même exode recommença, mais à rebours, et, de nouveau, vous eussiez dit une migration des époques primitives, un long serpentement de hordes en marche. Derrière les houles humaines, la mer accourait en un galop tumultueux, les crins dressés. Nombre d'hommes, cependant, étaient demeurés sur les roches, occupés à rassembler les dernières gerbes éparses de la récolte, à les assujettir avec des cordes, à les lier en radeaux, en drômes. Je les observais, non sans angoisse. Debout sur ces chalands improvisés, ils attendirent que les eaux fussent assez hautes pour les faire flotter. Puis, au balancement des vagues, on les vit s'avancer vers la terre. Appuyés sur leurs gaffes, dans leur accoutrement barbare, ils avaient l'air de personnages mythologiques qui venaient vers nous, portés par des monstres des profondeurs du vieil océan. Parage d'Ouessant, lendemain de naufrage, juillet 1898. Voici déjà quelque temps, je regardais du pont de la Louise défiler, sur un ciel orageux, tout ce paysage d'îles et d'écueils qui s'échelonne entre Ouessant et la Grande Terre, comme autant d'épaves d'un continent disparu. Nous étions partis du Conquet à la première aube, bien avant que le phare des Pierres Noires, au large de Saint-Mathieu, eût éteint son feu rouge à reflets sanglants. La pointe de Corsen sur notre droite s'estompait vers le nord en une haute silhouette farouche. À gauche, des croupes vertes, d'un vert roussi, se montraient par intervalles, comme balancées par l'immense remous des eaux. D'abord, Béniguet, la Bénie, par euphémisme, je suppose, pareil à un lambeau de prairie ourlé d'un lambeau de grève, et où bivouaque pour la fabrication de la soude quelques goémoniers. Puis, Morgol, Kéménès, Triélin, roche déserte, hantée des seuls oiseaux de mer. À Molène, la Chauve, nous fîmes escale. Molène est en quelque sorte la cadette d'Ouessant. Tandis que la Louise stoppait dans le petit port en eau profonde, le môle se couvrait d'Iliens et d'Iliennes, venus pour recevoir les provisions que le vapeur leur apporte 3 fois par semaine, si le gros temps n'y met point obstacle. Le bourg, une 20aine de maisons en pierre grise hérissée de lichens, s'étage sur le flanc septentrional d'une colline basse, d'une espèce de morne dénudée que dominent de leurs pointes, pour ainsi dire jumelles, le clocher de l'église et le mât du sémaphore. Le canot conduisit à terre le facteur, non moins attendu que les provisions, et prit le recteur de l'île qui allait rendre visite à son confrère d'Ouessant. C'était ce même abbé Lejeune dont le nom a été si souvent prononcé ces jours-ci à propos du naufrage du Drummond Castle, dont il aura enterré quelques 200 victimes. L'image que j'ai retenue de lui est celle d'un bonhomme gai, rond de manière, le parler bref et l'allure crâne, comme il sied au pasteur d'une population de matelots. Il faut à un prêtre, pour vivre à Molène, un certain fond de belle humeur et de joviale philosophie. Celui-ci, l'année d'avant, avait eu à extrémiser en quelques jours la moitié de ses paroissiens. Le choléra s'était abattu sur l'îlot et y exerçait d'affreux ravages. Le recteur dut s'improviser médecin, brancardier, fossoyeur même, car, le bedeau ayant succombé, force lui fut de retrousser sa soutane et de passer les nuits à creuser des tombes. Aujourd'hui, c'est la mer qui fait refluer vers Molène une moisson de cadavres. Déjà, le cimetière déborde sur la place publique. L'île entière ne sera bientôt qu'une vaste sépulture. Et le robuste abbé Lejeune suffit à tout. Par le travers des roches gazonnées de Banec et de Balanec, je me rappelle que le capitaine Mignou me dit « Vous avez vu tout à l'heure les pierres noires, là-bas dans le suroi, c'est l'âme qui brise, ce sont les pierres vertes. » Je ne leur jetais d'ailleurs qu'un distrait coup d'œil. Elles n'étaient encore que des récifs quelconques qui n'avaient pas fait parler d'eux et dont rien ne présageait la notoriété sinistre. La grande célébrité de ces parages à cette époque, c'était la jument. C'est elle, elle seule, qu'aux approches d'Ouessant, passagers et marins nous cherchions des yeux. Elle apparut enfin, dressant au ras des eaux sa crinière pétrifiée de monstres de la mer. Sur sa croupe écumante, aux 3/4 noyée, un énorme paquebot achevait d'agoniser, de se disloquer pièce à pièce, avec des craquements funèbres. La proue semblait se raidir comme pour essayer de s'arracher à l'effroyable étreinte. Le nom de cette masse moribonde se lisait distinctement en lettres dorées. Miranda, Hambourg. Elle râlait là depuis 4 jours. L'équipage, sauvé par miracle, avait pu gagner le littoral dans les chaloupes. Nous avions à notre bord le capitaine qui venait, accompagné d'un agent de la compagnie d'assurance, reconnaître l'état du navire. Il se tenait à l'avant, taciturne, ne sachant pas un mot de français. Quand nous passâmes devant l'épave, il se découvrit et sur ses joues bronzées coulèrent 2 longues larmes, cependant que des ouessantines, appuyées au bordage, murmuraient entre 2 signes de croix une courte oraison. Je fus, dans l'après-midi, au sémaphore du Créac, situé à l'extrémité nord-ouest de l'île, sur la plus occidentale des pinces de crabe qui enserre la baie de Lampol, le principal port d'Ouessant. C'est le coin le plus pittoresque de cette haute table de granit perdue aux extrêmes confins du vieux monde et que des temps relativement peu éloignés verront s'affaisser dans l'abîme. C'est surtout le point de la côte française d'où le regard embrasse le plus large, le plus majestueux horizon. Nous sommes ici, me disait le guetteur, sur la lisière d'une des grandes routes de la mer. Route singulièrement animée et vivante, des fumées lointaines et qui, à distance, paraissent immobiles, déroulent sans fin leur volute grise parallèlement à la ligne onduleuse des flots. C'est, tout le jour, toute la nuit, une caravane ininterrompue de steamers, ceux-ci montant vers le nord, ceux-là descendant vers le sud, promenant à travers l'immensité des espaces atlantiques les pavillons de tous les peuples et l'inquiétude éternelle de l'humanité. Du lever du soleil à son coucher, il en défile parfois plus de 80 dans le champ du télescope du guetteur. Il passe très vite, à toute vapeur, à toute voile. « Qui voit où est sang, voit son sang », dit un adage breton. Et c'est en été, par les belles accalmies de juin, de juillet, d'août, qu'il faut se défier davantage de ces lieux perfides. Alors, selon l'expression locale, la mer fume. Des mousselines ténues flottent entre ciel et eau, suspendues comme des toiles d'araignées géantes, derrière lesquelles les écueils embusqués attendent silencieusement leur proie. En vain, le phare du créac brandit à intervalles égaux sa torche électrique. Ses rayons se dissolvent dans l'air mou. En vain, la sirène pousse son meuglement enroué. Sa voix demeure impuissante à déchirer le formidable silence. Le navire dévoyé, saisi dans un étau mystérieux, oscille, se débat, s'engloutit. Vieille histoire lamentable qui, chaque année, s'augmente, hélas, d'un nouveau chapitre. Et que de drames inconnus dont les suaires mouvants du front veur n'ont jamais laissé transpirer le secret. Veillée d'août. C'était un soir, à Ouessant, dans l'auberge que j'ai décrite ailleurs, dans le sang de la sirène, avec sa salle basse, ornée de meubles qui furent des épaves, et ses deux lucarnes aux rideaux retroussés, ouvrant sur une ruelle étroite au bout de laquelle gronde la mer. Un groupe d'Ouessantins fraternisait, le verre en main, avec des Iliens de bas, débarqués de la veille. La conversation, hésitante d'abord, s'était promptement animée. On en vint à opposer l'une à l'autre les deux terres, à vanter leurs mérites respectifs, les avantages et les beautés propres à chacune d'elles, surtout les rudes dompteurs de flots qu'elles s'honorent à l'envie d'avoir enfantés. Ceux d'Ouessant citaient des noms par centaines, en une sorte de litanie homérique, noms de pilotes, de sauveteurs, demeurés illustres dans les fastes de l'île, mais dont la gloire n'a jamais franchi la passe redoutée du frondeur, sauf peut-être, en quelques rares circonstances, pour être inscrite au livre que nul ne feuillette des annales du Primontion. Les hommes de bas, l'œil narquois, attendirent, en souriant dans leur barbe, que la kyrielle fût terminée. Puis l'un d'eux se leva et dit « Nous autres, voilà, nous avons très maintin !» Ce seul nom, jeté d'une voix tranquille, produisit sur l'assistance un effet surprenant. Il y eut un moment de silence quasi religieux. Quelques Ouessantins ôtèrent leur béret. Un vieux se souvint d'avoir connu Trémaintin, d'avoir trinqué avec lui. Il évoqua ses traits, son air simple et bon enfant, la franchise et la douceur de ses yeux. Dès lors, il ne fut plus question que du brave pilote. L'insulaire qui, le premier, avait prononcé son nom, se trouvait être de sa parenté. Il avait été bercé sur ses genoux, avait retenu de sa bouche le récit, 20 fois conté, de son héroïque aventure. Sur la prière des Ouessantins, il le conta lui-même, tel exactement qu'il l'avait entendu. Il montra le Ponayoti entouré de barques ennemies, le pont envahi par les pirates. « Comment nous débarrasser de cette racaille, lieutenant ? En les faisant sauter avec nous, Trémaintin ! » La soute aux poudres est ouverte. L'enseigne Bisson y lance un brandon enflammé. « Adieu, Trémaintin. Au revoir là-haut, lieutenant !» Un peu de fumée blanche, un fracas formidable, et voilà tout le monde en l'air. Trémaintin, cependant, a eu le temps de faire le signe de la croix et de se recommander à Notre-Dame. Et maintenant, en route pour le paradis. Mais le paradis ne veut pas encore de lui. Après une tournée dans les nuages, il se réveille au fond de la mer. L'eau salée, ça le connaît, il y est chez lui. Un bon coup de jarret le ramène à la surface. Il s'ébroue, respire longuement, lève les yeux vers le ciel nocturne, piqué d'étoiles, et, là-bas, devant lui, debout sur les vagues encore agitées par l'explosion, il voit se dessiner une svelte image de femme qu'à son accoutrement, il reconnaît pour la Vierge de Roscoff. Elle sourit, incline la tête, semble lui crier « Courage, Trémaintin ! Tu reverras ton pays de Bretagne et la flèche du Cresquer et ta maison de l'île de Bas !» L'apparition s'évanouit, mais au même instant, il se sent la figure frôlée par un cordage. C'est un bout de filin qui traîne à l'arrière d'une yole turque, fuyant à force de rames. Il s'y cramponne des deux mains et se fait remorquer ainsi jusqu'à terre. Il était sauvé. Le narrateur ajouta « Jusqu'à la fin de ses jours, mon grand-oncle fut dévot à la Vierge. Sans elle, aimait-il à répéter, les crabes de la Méditerranée auraient depuis longtemps nettoyé mes eaux. » Gravement, les autres conclurent « C'est une grande sainte. S'il ne l'avait pas, les marins seraient comme des enfants sans mère. » On but à la ronde à la mémoire de Trémaintin, et les anecdotes se succédèrent sur le compte de l'humble héros. Les moindres épisodes de sa vie furent relatés. L'histoire de son voyage à la cour est inédite. Rapatrié à l'île de Bas, le pilote achevait de s'y remettre de ses innombrables blessures quand, un jour, arriva du ministère de la Marine un grand pli cacheté. Le roi Louis-Philippe, au dire du conteur, témoignait un pressant désir de voir Trémaintin et le mandait à Paris. Sa femme, Caïc Allez, insista pour l'accompagner. Elle craignait pour lui les fatigues de la route, d'autant plus qu'en Ilienne, qui n'avait jamais quitté son île, elle s'imaginait Paris à l'autre extrémité du monde. Elle revêtit donc ses plus beaux atours, sa coiffe de fil de lin, l'ample jupe qu'elle ne portait qu'une fois l'an, le dimanche de Pâques, son tablier garni de dentelles et son petit châle de mérinos noir brodé de fleurs de soie. Puis, tous deux prirent la diligence à Morlaix, munis d'un fort panier de provisions. Aux Tuileries, on leur fit l'accueil le plus chaleureux, et la bonne Ilienne eut un succès presque égal à celui de son mari. Mais tous ses honneurs la troublaient sans la séduire, et d'ailleurs, avec sa finesse de paysanne, elle eut bientôt remarqué que la flatteuse curiosité dont Trémaintin et elle étaient l'objet n'allait pas sans quelque ironie. Impatientée, un peu froissée aussi, elle tira le pilote par le bord de sa vareuse et lui dit en breton « Yvoun, déom d'arguer, Yves, retournons-nous-en chez nous. » À quoi Louis-Philippe, se figurant avoir compris au moins le dernier mot, se hâta de répondre « Oui, oui, ma brave femme !» Vous pouvez être tranquille, nous l'enverrons encore à la guerre. Vous pensez, si Caïc Allez rit fort à part soi de ce quiproquo ici, à l'île de Bas, les commères en firent des gorges chaudes. La chose passa même en proverbe, et l'on dit encore dans le pays, de quelqu'un qui veut parler de ce qu'il ne sait pas, qu'il s'y entend à peu près aussi bien que le roi de France au breton. Mais je me demande si à transcrire ces propos, on ne leur enlève pas tout leur charme. Ils ne valent en réalité que sur les lèvres d'un homme de mer, devant un auditoire d'âmes simples et dans le cadre fruste d'une auberge d'Ouessant, perdue au large des grandes eaux.